fusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Prague dans cette émission culturelle préparée pour vous par la rédaction française. Nous vous proposons un entretien avec le réalisateur français Florent Tillon, dont le film Détroit, ville sauvage a été présenté au festival du film court des droits de l'homme One World qui s'est achevé ce week-end. Comme tous les 15 jours, nous écouterons ensuite la rubrique de Guillaume Narguet, le tchèque du bout de la langue. Aujourd'hui, Guillaume Narguet décortique l'origine et le sens de l'expression tchèque, issue de l'Ancien Testament, « répandre des cendres sur la tête ». Enfin, dans notre page littéraire, nous réécouterons l'émission de Václav Richta, consacrée à l'écrivain Jiří Mucha, le fils de l'illustre peintre Alphonse Mucha. Bonne écoute à toutes et à tous. Mais tout de suite, place à la culture. Le festival du film des droits de l'homme One World s'est achevé jeudi avec la cérémonie de clôture qui a consacré le film Vol spécial du réalisateur suisse Fernand Melgar. Au cours des 9 jours du festival, version pragoise, les cinéphiles et spectateurs que le monde ne laisse pas indifférents ont pu voir plus d'une centaine de films, parmi ceux-ci Détroit, ville sauvage du français Florent Tillon. Ce film raconte par l'image, mais aussi beaucoup par les sons, une ville de science-fiction qui ne peut que nous laisser nous interroger sur les limites de la pensée moderne à court terme. Anna Kubishta s'est entretenue avec le réalisateur. On l'écoute.
Culture sans frontières.
Florent Tillon, bonjour.
Bonjour.
Je vais commencer par vous demander tout simplement comment est né en fait ce film sur la ville de Détroit.
Tourisme. Non, j'étais à Montréal et j'allais à Chicago et j'aurais pu passer par un autre chemin, mais je voulais passer par là parce que j'avais entendu parler, mais j'avais jamais vu aucune photo, je savais pas vraiment ce que c'était, j'avais entendu dire que c'était un peu une ville de science-fiction et voilà, je voulais voir et j'ai pas été déçu.
La science-fiction vous attirait à la base, hein, justement ?
Moi, je suis un grand fan de science-fiction, ouais. Et je pense comme beaucoup de gens de 30 ans en fait. Et je repense à ce premier moment où je suis passé dans le centre-ville de Détroit avec nostalgie. Parce que c'était vraiment un moment que j'ai adoré.
C'est un moment général qui se reproduit pas, la première impression.
Ouais. Ça se complète, ça se densifie, ça se complexifie. Mais le choc de se retrouver dans un décor de science-fiction, mais pour vrai. Et c'est ce que je dis souvent en fait, c'est que quand j'ai traversé le centre-ville, après j'ai traversé les Midtown et les suburbs, et ça a continué ce côté. Évidemment, les gratte-ciels vides, c'est plus impressionnant, mais après c'est très impressionnant aussi, hein, tous ces lotissements qui disparaissent petit à petit avec le temps et tout ça. Mais ce que je dis souvent, c'est que je fais partie d'une génération qui ont été élevés aux films apocalyptiques en fait. C'est-à-dire que le film apocalyptique hollywoodien, mais pas que, a vraiment explosé dans les années 60-70. Et c'est à peu près au moment où on est né. Depuis qu'on est né, Hollywood nous dit que la fin du monde arrive, en fait.
Le monde va finir bientôt, il faut s'y préparer.
Voilà. Ils nous font fantasmer là-dessus, en fait, depuis 30-40 ans, ça fait à peu près notre âge. Et donc il y a une sorte de synchronisation entre ces fantasmes de fiction et le monde d'aujourd'hui, en fait. Mais ça est général pour la science-fiction, c'est pas que pour cet aspect-là. Il y a énormément d'autres choses en termes de technologie, en termes de K. Dick, par exemple. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point Philip K. Dick était un visionnaire. Parce que plein de choses qu'il avait dit d'une manière poétique se voient aujourd'hui. Dubaï, par exemple. Dubaï, c'est une ville complètement K. Dickienne, c'est une ville virtuelle.
Alors, Détroit, évidemment, quand on pense à Détroit, on pense à Ford, on pense aux automobiles. Pour les personnes qui ne sauraient pas exactement, et c'est ce qu'on voit dans votre film, c'est-à-dire que cette ville, finalement, est une ville presque fantôme. Hein. C'est une ville qui avait 2 millions d'habitants dans les années 50. Aujourd'hui, elle doit en avoir quoi, 700 000. C'est rien, surtout par rapport à la taille des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, justement, pour que cette ville aujourd'hui soit un peu post-apocalyptique ?
Ben, en fait, ça serait un peu long parce qu'il y a eu plein de choses, il y a eu une émeute, une des plus grosses émeutes dans les années 60, une émeute gigantesque. On dit noir, blanc, mais en fait, c'était pauvre, riche.
Ça se recouvre assez souvent d'ailleurs quand même.
Et ça se recouvre, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de noirs parmi les pauvres, mais il y avait aussi des latinos, il y avait aussi des blancs d'ailleurs. Et mais ça a été énorme, c'est-à-dire il y avait carrément les chars d'assaut dans la ville quoi, avec des incendies, une destruction. Il y a eu, c'est pas là où il y a le plus de morts, mais il y a vraiment le plus de destruction quoi. C'était la guerre quoi. Ce qui est intéressant d'ailleurs, puisque Détroit c'était la ville de l'industrie guerrière. Ils fabriquaient 3000 tanks par jour. Rien qu'à Détroit. Et ces tanks-là, finalement, sont revenus faire la guerre à l'intérieur même de la ville. Donc c'est déjà assez fou comme truc. Mais après, il y a eu aussi, évidemment, la délocalisation de Ronald Reagan, qui a érigé la délocalisation comme modèle de société. Ce qui est intéressant comme concept. Et ce qui est aujourd'hui en train d'arriver partout en Europe, dans tous les pays occidentaux. Donc c'est les raisons principales pourquoi une ville industrielle et mono-industrielle, surtout, et dans cet état-là. C'est les émeutes, donc fuite, peur des gens, la sécurisation aussi, donc quelque part une vie hostile finalement. Faut pas oublier que par exemple, qu'il y a un grand film à propos de Détroit, c'est Robocop. Robocop parle de Détroit. Si vous regardez le film aujourd'hui, vous vous rendez compte, et que vous connaissez un peu la ville, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses qui viennent de la ville, qui sont dans l'histoire de la ville, même le Renaissance Center qui est dans le film, un building de verre et d'acier. Et au cœur du film Robocop, c'est là où ils inventent l'homme-machine, le robot flic. Et même le robot flic, l'idée de l'homme-machine, c'est Détroit, c'est-à-dire le transformer les hommes en, comme dans Charlie Chaplin en fait, c'est la suite des temps modernes, c'est-à-dire transformer l'homme en machine, et c'est exactement Robocop.
Ce qui est intéressant justement dans le film, c'est qu'on voit en fait toutes ces ruines, par exemple des vieux bâtiments. Alors il y en a une qui est vraiment très impressionnante, c'est la ruine par exemple de cette vieille gare de style, j'allais dire, quasi néoclassique, etc., donc à moitié détruite. Et c'est intéressant parce qu'on se dit toujours justement que l'Amérique a une histoire récente, donc souvent on entend peu d'histoires, contrairement au vieux continent. Le vieux continent est justement symbolisé par toutes ces anciennes ruines des différentes civilisations qui sont succédées. Finalement, ce qu'on voit là, d'une certaine façon, et ce qui est symbolisé par ces ruines, c'est la fin d'une certaine civilisation aussi.
Bien sûr, vous avez tout dit.
C'est ce que ressentent les gens justement.
Oui, c'est même ça fait partie de la culture maintenant. Et la gare, effectivement, c'est on voit l'Empire romain quoi tout de suite. Mmh. C'est un des premiers trucs qui vient à quelqu'un qui a un peu de, qui pense un peu, qui aime rêver, qui aime penser. Tout de suite, on se dit mais voilà, l'Amérique s'est toujours comparée à l'Empire romain. Ben, faut pas oublier que l'Empire romain, c'est devenu Rome en ruine aussi. C'est ça. Et d'ailleurs, j'aurais adoré connaître Rome en 600. ça doit être quelque chose. Je pense que ça ressemblait beaucoup à Détroit en fait, Rome en 600 ou 700.
Alors justement, les personnes que vous rencontrez pendant ces mois que vous avez passés à Détroit, bon, on va pas tous les décrire, mais par exemple, il y a cette communauté de personnes qui jardinent. Ils sont géniaux, hein, ils sont tous là avec leurs petits lopins de terre, au milieu quasiment aussi de bâtiments en ruine. Et puis on se rend compte que finalement, d'une certaine manière, ils inventent une autre forme de civilisation sur les ruines de cette ancienne, même si justement ils reviennent à une forme de civilisation assez classique.
L'agriculture, c'est toujours la première chose en fait qui revient quand tout est fini, puisque c'est la base de la pyramide des besoins, enfin quelque part quoi. Donc moi j'avais fait à l'époque où j'avais fait des recherches, j'étais tombé sur une photo des ruines de Babylone et une autre Rome en fait, et vraiment incroyable. Mais j'avais vu dans ces ruines en fait des palmeraies au milieu des ruines de Babylone. Ça, c'était une photo d'explorateur en fait, et depuis, je sais pas quand est-ce exactement Babylone a été transformée en champ de ruines, mais pendant tous ces siècles-là, finalement, les seuls habitants de Babylone, c'était des fermiers qui avaient des palmeraies, quoi.
Au milieu des ruines.
Au milieu des ruines. Donc c'est un classique.
Et puis alors, on se rend compte que la nature reprend ses droits parce que on y voit se balader un faisan, un lapin, des petits, bon, les petits écureuils, c'est assez classique. J'allais dire, qu'est-ce que justement dans le cadre des États-Unis, qu'est-ce que fait le gouvernement américain justement pour éventuellement aider les personnes qui sont retrouvées là-bas, je sais pas, au chômage, qui peuvent pas partir et qui sont coincées finalement à Détroit.
Moi, je suis pas spécialiste de cette question, mais je sais qu'il y a quand même une sorte de RMI qui vaut pas cher, que d'ailleurs certains n'ont pas, pour la petite histoire, certains n'ont peuvent plus avoir le RMI parce qu'il y a tellement de chiens dangereux qui traînent dans les quartiers que les facteurs n'osent plus venir dans certains quartiers, donc les gens peuvent plus avoir le RMI parce que c'est par courrier que ça se passe. Donc c'est assez drôle. Dans un sens, c'est pas si drôle ça en fait. Mais voilà, pas grand chose sinon. Il n'y a pas de restructuration, il n'y a pas de... C'est la culture qu'on découvre maintenant et qu'on est en train de découvrir ici, c'est-à-dire la culture du court terme. C'est-à-dire qu'on veut que ça claque maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'on veut que ça rapporte tout de suite. Ça, c'est la culture d'aujourd'hui. Et c'est vrai en art, c'est vrai en culture, c'est vrai en industrie, c'est vrai même en politique. C'est-à-dire que tout est comme ça. On veut que ça rapporte tout de suite. Or, s'il y a vraiment quelque chose à faire à Détroit, il faut que ce soit du long terme. Il faut re-avoir une vision, et c'est ce qu'ils font, en fait.
Il y a des gens qui ont des visions.
Il y a des gens qui ont des visions, et ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps.
C'est intéressant parce que justement à la radio, on travaille avec le son. Alors dans votre film, le son est important puisque Détroit est une ville vide, mais en même temps qui est pleine de sons. Est-ce que vous pourriez un petit peu décrire ces sons ?
Donc ça, j'ai travaillé avec ma collaboratrice et femme Hélène Magne, qui a beaucoup été investie dans ce projet, évidemment par rapport au son, mais même au-delà. Ce qui est très intéressant à Détroit, c'est le rapport entre deux sons qui coexistent. Qui sont un son de nature, de jungle presque, de forêt, et un son d'autoroute, quoi. Un son de bagnole, un son d'urbain quand même, mais un urbain bizarre, parce que c'est quand même vide, c'est-à-dire que
ça résonne, entend
surtout l'autoroute. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire, c'est il y a l'autoroute avec les gens qui passent, mais sur les côtés, il y a pas de vie humaine tellement. C'est l'autoroute et les oiseaux.
Sans le brouhaha de la vie des gens, en fait.
Avec beaucoup moins de, quasiment inexistant, de ce brouhaha d'urbanité, quoi. Et donc, c'est un contraste super fort. Et si on s'éloigne de l'autoroute, on s'approche vraiment juste de là. Et donc, il peut y avoir des endroits où c'est juste la forêt. On est au milieu de Détroit et on a l'impression d'être dans la forêt, en fait, au niveau du son. Et il y a des endroits où c'est les deux. On a essayé de faire des idées aussi par rapport à ça. Par exemple, c'est la forêt, et puis d'un coup, on entend une grosse bagnole avec du hip-hop qui passe, puis qui disparaît à nouveau, puis c'est la forêt. Ou le People Mover. Le People Mover, c'est un train qui passe dans le centre-ville, une espèce de robot programmé que personne ne prend, mais qui continue tout seul à tourner au centre-ville avec des rails rouillés, donc ça fait un bruit absolument strident. Donc quand il passe, ça fait... Et quand il part, on entend au loin les rails qui s'éloignent, le son qui s'éloigne, et puis de nouveau les oiseaux qui reviennent calmement. Tous ces trucs-là, c'était très intéressant à travailler par rapport au son.
Vous aurez envie de retourner à Détroit pour voir comment ça évolue ?
Ouais, bien sûr, pour voir les potes, les copains qu'on s'est fait là-bas, pour voir comment ça évolue. Ouais. Surtout pour voir les amis, en fait. On fait des rencontres humaines extraordinaires là-bas.
Et le retour, c'était étrange ?
Ouais, le retour, c'était étrange. Revenir dans une ville aussi dense, aussi habitée que Paris, ça nous a pris 2 semaines à peu près. 2 semaines pour se remettre à nouveau dans cette espèce de frénésie, dans ces flux et dans ce manque de liberté aussi. Donc ouais, il y avait beaucoup de nostalgie quand on est revenu. On était vraiment, on est, oh, putain, mais qu'est-ce qu'on a fait? On aurait dû rester là-bas, en fait.
On se déshabitue vite, hein, finalement.
Et dans les deux sens, ouais. Ouais, j'aimerais y retourner, bien sûr. Mais je suis déjà retourné, en fait, pour la première a eu lieu là-bas.
Et comment les gens ont réagi alors ?
Très très bien, très très bien. J'étais vraiment très agréablement surpris de leur réaction. C'est parce que c'était vraiment les gens là-bas, pas des intellectuels forcément, les salles étaient pleines. Il y a eu 4 jours de projection et je suis allé 4 soirs parler avec les gens et il y a juste eu à un moment donné quelqu'un qui a un petit peu dit quelque chose, mais qui était intéressante d'ailleurs, en réaction un peu par rapport au film. Mais non, c'était charmant. C'est vraiment des gens charmants là-bas.
Et tout de suite, Guillaume Narguet qui revient dans sa rubrique « Le tchèque du bout de la langue » sur l'origine et le sens de l'expression tchèque issue de l'Ancien Testament « répandre des cendres sur la tête ». On écoute Guillaume Narguet.
Le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Comme convenu dans notre dernière émission, nous allons poursuivre notre petite série consacrée au mot
popel,
cendre. Dans cette même émission, la dernière, donc, nous avions évoqué en introduction le mercredi des cendres,
popeleční středa,
avant de nous en éloigner. Nous allons donc en quelque sorte y revenir à travers une expression très imagée de la langue tchèque. Mais Mais une fois n'est pas coutume, commençons tout d'abord par une réaction d'un de nos lecteurs suite à notre dernière émission consacrée donc essentiellement au mot
popelage,
éboueur en français et intitulée « Les cendres des poubelleurs ». Il s'agit d'une remarque de Monsieur Benjamin Hildenbrandt, je cite. « Je souhaite réagir à votre dernier article. Je vous ferai remarquer que « poubelleur » n'est pas familier. Il n'existe pas. Le voir écrit 8 fois dans un article est dommage, car il peut laisser penser aux Tchèques qui vous lisent que ce mot s'emploie en français. Il est vrai que je l'ai employé moi-même dans mon enfance, mais jusqu'à ce que l'on me corrige. Vous auriez pu alors utiliser le mot « cendreur », qui n'existe certes pas non plus, mais qui aurait eu une légitimité dans votre article. Alors, rappelons tout d'abord que la racine du mot tchèque
« popelář »
est composée de
« popel »,
cendre. C'est pourquoi nous avions expliqué que traduit littéralement
« popelář »
donnait quelque chose comme « cendreur », un mot qui n'existe bien entendu pas en français. En revanche, là où nous nous sommes trompés, et où M. Hildenbrandt a donc tout à fait raison, c'est lorsque nous affirmons qu'un éboueur peut également être désigné familièrement comme « poubelleur ». C'est faux, tout simplement, effectivement, parce que ce mot de « poubelleur », même s'il est parfois utilisé, n'existe pas dans la langue française. Nous prions donc nos auditeurs de bien vouloir accepter nos excuses, une manière également pour nous, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, de nous répandre de la cendre sur la tête. En effet, nous allons maintenant nous intéresser à une très belle expression de la langue tchèque. L'expression, relativement courante, qui veut que l'on se répande ou déverse de la cendre sur la tête.
Sypat si popel na hlavu.
Ou encore,
posypat si hlavu popelem.
Il s'agit en fait de faire comprendre de façon imagée que l'on fait amende honorable, c'est-à-dire reconnaître sa faute ou avouer ses torts et s'en excuser, demander publiquement pardon. La question toutefois qui nous turlupine est de savoir d'où provient cette expression. Dans son livre intitulé « Rien de nouveau sous le soleil »,
Aniž jest co nového pod sluncem,
sorte de dictionnaire du biblique et du parabiblique selon la préface dans lequel il explique les tournures couramment employées aujourd'hui d'après leur contexte biblique originel, Patrick Urgednik, un auteur tchèque qui a émigré en France en 1985, explique que l'expression
« sypat si popel na hlavu »,
donc « se déverser de la cendre sur la tête », tire son origine d'un passage de l'Ancien Testament, plus précisément du deuxième livre de Samuel, dans lequel Tamar, personnage biblique et fille du roi David, est violée par son demi-frère Amnon. Accablée Tamar, et nous citons là le passage de la Bible, avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Ainsi donc, on apprend que se couvrir de cendres était un rite pénitentiel de repentance, un moyen de demander à Dieu le pardon de ses péchés, la cendre étant souvent utilisée dans la Bible comme symbole de tout ce qui est sans valeur. En d'autres termes, se couvrir de cendres, c'est reconnaître sa faiblesse, manifester son regret du péché et signifier son espérance dans la miséricorde de Dieu. On retrouve d'ailleurs cette référence à la cendre dans d'autres livres de l'Ancien Testament, par exemple dans le livre d'Esther. Ici, lorsque Mardoché, personnage au centre de l'intrigue racontée dans le livre, a pris la promulgation d'un décret pour anéantir les Juifs de Perse, il, je cite, « déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. » On notera toutefois ici que Mardoché agit ainsi en signe de deuil et non pas pour se repentir. Mais cela n'enlève rien au fait que si l'on s'en tient aux interprétations des étymologistes tchèques, l'expression
« sypat si popel na hlavu »
tire son origine de la Bible et plus précisément de l'Ancien Testament. Voilà, c'est donc sur cette découverte que même peu de Tchèques connaissent que s'achève ce Tchèque du bout de la langue. On se retrouve dans 15 jours pour d'autres mystères et expressions de la langue tchèque. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil printanier en vous.
Mějte jarní slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
C'était le Tchèque du bout de la langue que nous avons eu le plaisir de vous présenter avec Guillaume Narguet. Tout de suite, quelques mots de littérature. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter l'émission du 11 juin 2011 consacrée à l'écrivain Yaji Mucha, fils du célèbre peintre Alphonse Mucha, un homme sorti de l'ombre de son illustre père et qui est devenu une personnalité importante de la littérature, de la culture et de la vie publique tchèque de la seconde moitié du XXe siècle. On l'écoute.
Rencontre littéraire. La vie de Yaji Mucha est une suite d'événements et d'aventures qui forment un roman passionnant. Il a été correspondant de guerre, voyageur, prisonnier, politique, écrivain, mais avant tout homme courageux qui voulait vivre sa vie et a su garder une certaine liberté même sous les régimes totalitaires. Il a vécu entre 1915 et 1991, et sa vie, dont certaines étapes restent voilées de mystère, ne cesse d'intriguer ceux qui l'ont connu et même ceux qui ne le connaissent que par ses livres. Seule l'écrivaine Yolana Chopovova a osé écrire sa biographie. Il lui a fallu 20 ans pour rassembler des témoignages et des documents sur Yaji Mucha. Son livre est une importante contribution à notre connaissance de cet homme fascinant et secret. Yolana Chopovova a rencontré Yaji Mucha pour la première fois en tant qu'étudiante de l'histoire du théâtre et du cinéma. Elle lui a demandé une consultation concernant le travail qu'elle préparait pour son séminaire et qui allait devenir finalement sa thèse de doctorat.
Pour moi, c'était une rencontre essentielle parce que sous le régime totalitaire, j'ai compris que la liberté n'était pas une question de conditions extérieures, mais une décision personnelle. C'est ce que Yaji Mucha m'a montré et c'est ce qui m'a permis de respirer et de commencer à me comporter différemment.
L'écrivain Yaji Mucha est le fils du peintre Alphonse Mucha, un des principaux artisans du style Art Nouveau. Né en 1915 dans une famille où le patriotisme tchèque est considéré comme une des vertus fondamentales, Yaji n'arrivera jamais à renoncer à ce petit pays au centre de l'Europe qui est sa patrie, bien que ce petit pays le fasse souffrir et le soumette à des épreuves difficiles. Cosmopolite, grand voyageur, il pourrait s'établir sans problème en Grande-Bretagne ou ailleurs dans le monde, et pourtant il revient toujours à sa maison de Prague, parce que briser les liens avec sa patrie serait pour lui cesser d'être lui-même. Il dira « Je n'ai jamais choisi le chemin facile, je n'ai pas voulu vivre ailleurs. Quand on est patient, tout arrive. Dans les périodes difficiles, il ne faut surtout pas se laisser pendre. Tout le reste, on peut le supporter. Et après, on se dit toujours « ça valait la peine ». La vie de Yaji Mucha s'achèvera en 1991, après la chute du communisme au sein d'une nouvelle époque. Yolana Chopovova regrette de n'avoir pris la décision d'écrire un livre sur Yaji Mucha qu'après sa mort.
En 1992,
lorsque j'ai décidé d'écrire cette biographie, j'ai commencé à rechercher systématiquement les gens qui approchaient déjà du terme de leur vie, et je me suis mise à les interviewer. Certains d'entre eux se sont tellement ouverts à moi qu'ils m'ont prêté leur correspondance, leurs photos, etc. Je me suis lancée, selon la méthode classique, à la recherche des sources dans les archives, mais certaines archives à l'époque n'étaient pas encore accessibles ou l'accès aux informations était limité.
La jeunesse de Yaji Mucha n'est pas exempte d'erreurs et d'hésitations. Hésitant tout d'abord de renouer avec le succès de son père, mais il échoue à l'examen d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts à Prague. Il étudie donc la médecine et l'histoire de l'art et se lance dans le journalisme. Vers la fin des années 1930, il s'établit à Paris pour y poursuivre ses études de médecine, et c'est là que la guerre le surprend. Enrôlé en 1939 dans le contingent tchèque d'Agde, il se rend ensuite en Angleterre, entre dans la Royal Air Force et devient correspondant de guerre de la BBC. Cette partie de sa vie lui vaudra la disgrâce des autorités communistes tchécoslovaques après la guerre. Dès 1948, son nom figure sur la liste noire et en 1951, il est arrêté comme espion et condamné à 6 ans de prison et de travaux forcés. Libéré, il exploitera son séjour en prison dans son œuvre littéraire. En 1968, après l'occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques, il explique devant les caméras de télévision d'Europe et d'Amérique ce qui vient de se passer. Il ose le faire malgré le danger que cela représente, malgré sa décision de continuer à vivre en Tchécoslovaquie, malgré une crise cardiaque qui vient de le terrasser. Élu président du Pen Club tchèque, il sera l'un des premiers écrivains tchèques à saluer publiquement le retour à la démocratie après la révolution de 1989 et poursuivra ses riches activités littéraires jusqu'à sa mort en 1991. Il laisse un certain nombre de livres, et notamment le roman essai « Le soleil froid », inspiré de son séjour dans les prisons staliniennes, la chronique « La guerre se poursuit », le roman « La tête de Lloyd », qui retrace sa vie nomade et cosmopolite, ainsi que le roman autobiographique « Au seuil de la nuit ». Il n'est pas facile de rédiger une biographie d'un homme qui a tellement voyagé et dont l'existence était tellement cosmopolite. C'est un travail qui dépasse largement les frontières d'un pays et Yolana Chopovova s'est vue obligée de chercher aussi dans des archives étrangères.
C'est dans cette catégorie de documents qu'il faut classer probablement aussi tout ce qu'a mis à ma disposition le peintre Rodolphe Kundera. Je lui ai rendu visite à Cassis et il m'a donné la correspondance qu'il avait entretenue avec Jiří Mucha à partir de la fin des années 20, lorsque Rodolphe Kundera avait commencé à assister Alfons Mucha lors de la création d'étoiles monumentales de l'épopée slave. C'est à cette époque qu'a commencé l'amitié entre Rodolphe et Jiří. Rodolphe m'a donné aussi beaucoup de photos et m'a permis d'entrer en contact avec d'autres personnes.
Rudolf mi poskytl také spoustu fotografií a samozřejmě kontaktů na další lidi.
La biographe de Jiří Mucha ne passe pas sous silence même la période sombre des années 1950, lorsqu'il a été emprisonné et lorsqu'il a joué probablement un jeu dangereux avec la STB, police politique du régime communiste. Yolana Chopovova n'est pas seule à se demander pourquoi l'écrivain a accepté au début des années 1950 de collaborer avec la STB et pourquoi il n'a cherché à mettre fin à cette collaboration que relativement tard dans les années 1960. Toutes ces questions et toutes ces spéculations ne peuvent cependant rien changer à sa conviction que Jiří Mucha était un homme intègre.
Je dois dire que le travail sur ce livre m'a apporté beaucoup de surprises, mais aucune de ces surprises ne m'a fait changer l'opinion que je m'étais faite de Jiří Mucha lors de nos rencontres personnelles. Ce travail m'a fait découvrir plutôt que Jiří Mucha était probablement l'unique homme ayant réussi à traverser le XXe siècle avec une conscience des faits et une sérénité incroyable, ce XXe siècle qui était tellement rempli de tournants et de confusions.
Mělo tolik zvratů prostě a tolik zmatků.
Qui était donc Jiří Mucha? Que pouvons-nous dire après avoir lu sa biographie, de son caractère, de sa vie intérieure, de son rapport vis-à-vis du monde? Peut-on résumer une vie si riche, si agitée et si marquée par les vicissitudes de l'histoire? Yolana Chopovova a tenté de le faire tout en étant consciente qu'il n'était pas possible de saisir toutes les facettes de ce caractère compliqué.
No, určitě byl povahy dobrodružné, ale zároveň velmi rozvážné.
Il avait certainement une nature d'aventurier, et c'est peut-être un paradoxe, parce qu'il était d'une part aventurier, d'autre part un homme très judicieux. Je dirais qu'il était croyant. Il croyait réussir certaines choses, et c'est pourquoi il les a réussies. Il croyait surmonter les injustices et les vexations dont il était l'objet, et il les a surmontées. Je pense donc que le principal trait de son caractère était la foi, non seulement la foi en lui-même, mais en l'homme en général. C'est le comédien Miloš Kopecký qui a dit une grande vérité sur lui, vérité avec laquelle je m'identifie complètement. Miloš Kopecký a dit, au milieu de beaucoup de gens, il était toujours seul.
Ces C'est par cette rubrique littéraire présentée par Václav Richter que s'achève cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague et présentée aujourd'hui par Paul Bauer. Demain, vous retrouverez Magdalena Hrozinkova dans le magazine musical. Vous pouvez bien sûr lire et écouter tous nos programmes sur Internet, sur le site suivant www.radio.cz/fr. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse suivante cr@radio.cz. Bonne fin de week-end. Au revoir. Na slyšenou. Radio Praga.